Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion. Si vous souhaitez également me soutenir financièrement, je possède une cagnotte Tipeee, T-I-P-3-E, Les Destins Flottants, afin de me permettre de transmettre encore plus d'inspiration. Merci et bonne écoute. Chers auditeurs et auditrices, je suis ravie de vous présenter donc cet épisode que j'ai réalisé en live qui traite de la permaculture, un terme très tendance, une dynamique très tendance, mais pour laquelle on n'a pas forcément toutes les connaissances. Donc cette fois, on a l'occasion d'interroger un spécialiste. Et notamment, moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement car j'ai déjà travaillé donc en agriculture intensive. Et donc, j'ai pu voir que l'agriculture intensive n'est pas un mode viable pour notre humanité. Bon, il n'y a plus de secret hein, par rapport à ça. Je pense qu'on a de plus en plus conscience de nos modes agricoles destructeurs. Et donc, la permaculture serait un des modes viables pour notre futur, pour nourrir notre humanité. Je vous laisse écouter. À très vite. Mon invité aujourd'hui est jardinier et il arbore des jardins de permaculture chez les particuliers. Bonjour Jonathan Keller.
Salut.
Alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Eh ben, je m'appelle Jonathan, j'ai 38 ans, je vis dans le Var depuis toujours. Et moi, j'exerce ce métier-là depuis maintenant 8 ans, de manière professionnelle, enfin quotidienne, quoi. Sinon, ça fait un peu plus longtemps que je suis intéressé par la permaculture en général. Et voilà, et ça marche plutôt bien, c'est cool.
Et qu'est-ce que tu as fait comme étude à la base ?
Alors, plein de trucs. j'ai fait un BEP, un CAP, opérateur géomètre architecture. Et ensuite, j'ai fait un bac pro, gestion économie de chantier, travaux publics. Et après, bah, j'ai arrêté les études, je suis parti travailler et j'ai repris des formations en permaculture de mon propre chef, beaucoup.
Et comment t'es venue l'idée alors de travailler en permaculture ?
Ben, j'étais au chômage, je faisais mon potager et je me disais que c'était bien en fait et que ben, c'était ça que j'allais vendre et je l'ai vendu.
Alors comment on commence en permaculture ? Comment ça se passe ?
Alors, moi j'ai eu beaucoup de chance. Enfin déjà, d'une part, je me suis formé, voilà, parce que j'avais un peu le truc de l'imposteur, étant donné que je suis du bâtiment, alors j'ai fait pas mal de trucs, la taille de pierre, etc. Mais là, j'ai toujours jardiné un peu chez moi, parce que j'ai un grand terrain, mes parents ont un grand terrain. Et du coup, bah, j'ai dû me former tout seul. J'ai pris la décision d'aller dans un centre de formation tout seul et de m'autofinancer toutes les formations que j'ai fait, surtout parce que quand on est au chômage et à Pôle emploi, c'est la merde, il faut pas attendre à ce qu'il lève le petit doigt pour faire quoi que ce soit, et au contraire, je pense.
D'accord.
C'est bien fichu.
Et quels étaient tes premiers pas avec les clients, comment ça s'est passé tout ça ?
Eh ben, j'avais pas de clients du tout. Du coup, j'ai fabriqué une jardinière en bois, comme c'était ou comme c'est toujours la mode, voilà, ces petits bacs potagers là. Et j'ai fait les fêtes commerçants de mon quartier quand j'habitais à Saint-Raphaël, un peu à droite, à gauche. Et ça a décollé comme ça parce que j'interpellais les gens avec du jus de pomme chaud que je leur offrais. Les gens comprenaient pas le cadeau. Et du coup, ils voulaient me payer le jus de pomme, mais non, moi, ce que je voulais, c'était leur filer ma carte de jardinier, et faire ma pub comme ça. Et je suis tombé sur un journaliste du Var Matin, qui a vachement accroché sur le concept, et qui, du coup, a publié un article sur moi. Ils sont venus dans mon jardin, ils ont pris des photos et tout. Et à partir de là, bah, j'ai travaillé tous les jours.
Super. Bon, là, c'était un coup du destin, quoi.
Ouais, c'était... j'étais à ma place, quoi.
Génial.
C'était cool. Parce que c'est tombé tout seul, parce que, mine de rien, j'ai monté ma boîte et j'ai pas eu un seul client pendant 4-5 mois.
Oui, ça va
Voilà.
encore, oui.
Ouais, alors ça va
Moi,
encore,
je me dis. Ça peut faire long quand
mais
même.
financièrement, j'avais pas les reins solides. J'ai mis moi tous les sous que j'avais dedans pour m'acheter 2-3 outils et puis faire de la pub. Mais du coup, ouais, 5 mois sans un coup de téléphone, sans quoi que ce soit, le temps est long, quoi.
T'as commencé à remettre en question ou non? T'y croyais dur comme
Ah non,
fer?
non, non, je continue à avancer. Ah ouais, non, j'étais sûr que j'allais y
Détermination, ouais.
arriver, quoi.
Ah, c'est chouette.
Ouais.
Ok. Et alors, on va définir un peu ce que c'est que la permaculture, de manière à ce que tout le monde comprenne bien, parce que je pense que sur le podcast, tous les auditeurs ne sont pas, enfin, ne connaissent pas spécialement le terme. Donc, parce qu'on en parle aussi beaucoup sans savoir vraiment ce que c'est. Alors voilà, si tu peux nous donner une définition, ta définition.
Alors ma définition, pour faire simple, c'est la permaculture, ce serait un art de vivre qui respecte absolument tout le vivant et qui s'inspire du vivant lui-même, de la nature, de la forêt, en recréant certains mimétismes. Voilà, bah pour faire vraiment court et simple, pour moi c'est ça, quoi. C'est vraiment un art de vivre respectueux.
Donc on a cet aspect, par exemple, on va pouvoir produire des cultures beaucoup plus solides grâce à d'autres plantes. C'est ça la permaculture aussi,
Ouais, alors il y a
c'est...
les
Ouais.
associations de plantes, tout ça. Après, il y a tout vraiment tout plein de sujets, la permaculture sociale, comme on disait, et aussi le jardin. Et au jardin, bah, moi, je pratique essentiellement. Alors, c'est un jardinage inclusif, c'est-à-dire que, enfin, moi, je fais ça ch chez moi, voilà. Les clients sont pas tous d'accord. Mais je ne traite pas, absolument jamais. J'inclus tout, absolument tout dans l'équation pour avoir le résultat le plus juste possible. Parce que à partir du moment où on enlève des éléments de l'équation, c'est là qu'on crée le déséquilibre. Alors que si on inclut tous les éléments, toutes ces petites bestioles qui sont nuisibles à un moment donné, vont justement attirer d'autres prédateurs qui, eux, ramèneront l'équilibre. Tu vois?
D'accord.
Si tu as beaucoup de pucerons et que c'est inquiétant et que même ça fait des ravages hein, dans les cultures, bah, l'idée c'est de ne pas traiter, c'est d'attendre, déjà de mettre des choses en place pour par exemple favoriser la venue des coccinelles, des insectes prédateurs, mais aussi ne rien toucher, quoi. C'est vraiment laisser faire la nature, observer le plus possible et créer un milieu favorable sans que moi. J'ai à éliminer des choses. Voilà, l'idée c'est que le jardin s'équilibre tout seul.
D'accord. Et alors comment est-ce qu'il y a quand même des techniques pour éviter un nuisible ou nous permettre... Non.
Alors oui, faut évidemment faut être vigilant. Mais après, on peut pas vraiment éviter un nuisible. Après, il y a des trucs qu'on sait quand on a de l'expérience. Bah, y a des plantes qui sont des plantes pièges, on va dire, contre les pucerons notamment qu'on parlait. Et en fait, y a des plantes comme l'absinthe qui sont utiles au jardin parce qu'elles font. Elles sont pollinisatrices, mellifères, donc les abeilles l'adorent, mais les pucerons aussi. Du coup, on sacrifie quelque part une plante qu'on va pas manger pour améliorer les cultures des légumes qui sont à côté, quoi.
En fait, on crée des leurres quelque part.
Voilà, des leurres, des pièges, on essaye de se débrouiller comme ça, de ne pas faire trop d'erreurs. Si on fait du compost, il faut savoir le faire bien comme il faut, sinon après. Eh bien, on peut attirer les rats ou les souris.
Et oui.
Et ouais.
Alors, comment on fait un compost qui n'attire pas les rats et les souris?
Alors, c'est pas simple. Bah, faut surtout beaucoup de matériaux secs, déjà,
Ok.
pour le mélanger. C'est pas le compost, c'est pas un tas de déchets comme ça qui s'accumulent. Bon, ça marche aussi, mais c'est pas pareil, hein. Mais beaucoup de matériaux secs. C'est un quart de matériaux humides pour à peu près trois quarts de matériaux secs.
D'accord, c'est quoi un
De la
matériau sec?
paille, du
La
bois
paille,
broyé,
ok.
ouais, la paille, ça va bien.
Et ça, on peut se le procurer de manière écologique, comment...
Oh, la
Ouais.
paille, facilement, dans une coopérative agricole, il
Ok.
y a une botte de paille, ça coûte 10 euros. Sur un petit compost de famille, ça fait l'année, quoi.
D'accord.
Okay. Ah, oui, ça suffit pour c'est mélanger.
C'est pas compliqué à obtenir.
Du tout. Hein. Non, ça va bien. Après, moi, je fais autrement dans mon jardin. Je mets directement les déchets par terre, à même le sol, et je recouvre de paille comme ça dans les plates-bandes. Mais sur une épaisseur vraiment fine, hein, c'est 2-3 cm, jamais plus, parce que sinon après ça pourrit tout. Du coup, je mets mes déchets sur un cordon bien étalé, et après par-dessus, je mets de la paille, et j'alimente mon sol comme ça.
Ok. Et le compost, ça permet de... C'est comme un engrais ?
Ah ben c'est un engrais, du coup je redistribue à la terre ce qu'elle m'a donné à manger. Du coup c'est déjà de l'échange. Et ensuite il y a énormément aussi de plantes sauvages comestibles qui poussent. Du coup là on avait des melons, bon on en avait déjà suffisamment, mais on en a maintenant encore plus que prévu. On sait plus quoi faire des melons parce que on en avait mis dans le compost. Et ben là tu vois, on avait mis 5-6 plants là et ça a donné du feu de Dieu. Et là, il y a 3-4 plants qui se sont ressemés du compost et ça redonne des melons à nouveau. Et voilà quoi.
L'abondance du melon.
Ouais, non, mais c'est ça. Puis ça marche avec tous les légumes, hein, les tomates, les salades, les choux, enfin tout ce qui est monté en graines, quoi. Hein, ça repart.
Et oui. Et alors, est-ce qu'en permaculture, on arrose ou pas? Parce que tu me disais hors antenne que les puristes, normalement, ils n'arrosent pas. Mais que certains jardins quand même arrosent, alors...
Ouais, non, il faut arroser. Ne pas arroser, ça peut se faire. C'est très long. C'est énormément de patience, énormément de boulot, dans le sens où il faut refaire ses semis chaque année.
D'accord.
Après, de toute façon, ça reste dans la philosophie de la permaculture, parce que... on ne veut pas dépendre des semenciers non plus, et puis on préserve les variétés paysannes, mais en fait il faut rester sur le même sol, dans le même jardin, à semer les variétés et à faire les graines d'année en année, et en fait c'est comme ça qu'on arrive à avoir une variété qui s'est adaptée au climat, quoi.
D'accord.
Alors ça fonctionne, mais il faut vraiment être patient, et ça se fait pas... ça se fait pas en 2-3 ans, je crois. C'est minimum 5-10 ans, quoi.
Ah oui.
Ah ouais, facile, facile.
Entre 5 et 10 ans, 10 ans plus tard, nous avons eu le temps de mourir 40 fois.
Eh non, mais c'est ça, c'est que chaque année, la graine, elle met le patrimoine génétique du sol, enfin la plante met le patrimoine génétique du sol dans la graine pour l'année suivante. Et c'est un peu la théorie de l'évolution comme nous, tu vois. Mais c'est une année, une graine. En fait, pour arriver à faire le virage avec les plantes et les adapter à son sol, faut du temps.
D'accord. Et alors, est-ce que ce qu'on appelle la permaculture, c'est pas finalement un retour à la paysannerie ?
Ah si, complètement. Si. Hein. Ouais.
Pourquoi on a donné ce terme permaculture ?
Parce que ça reste un art de vivre, comme je disais. Ça englobe énormément de choses autour de la santé, des relations sociales, et de la politique, et de tout ce qui... C'est un art de vivre, quoi. Donc ça touche à vraiment tout. Après, ça ressemble énormément, à une agriculture paysanne, comme on a pu l'avoir dans les années 1850, où on était vraiment à l'apogée du système agricole, quoi.
D'accord.
Pour moi, c'est ça, c'est les gars en 1850, ils produisaient pour tout le monde. À l'époque, il n'y avait pas de pesticides, il y avait des pêchers dans Paris, ça assurait grave.
On était moins nombreux, remarque.
On était moins nombreux, mais on savait faire.
D'accord.
Je pense pas que ce soit le nombre qui est.
Oui, c'est pas dépendant du nombre de bouches à nourrir.
Non, du tout. C'est dépendant encore d'autres choses.
Comme quoi, par exemple ?
Du rendement financier, en fait. Et à la fin de la guerre, ils ont fait le regroupement parcellaire, du coup, ils ont tout rasé, ils ont coupé 1 million de kilomètres linéaires de haies en France. Et rien qu'en France, juste pour faire le regroupement parcellaire.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'un paysan qui avait 10 hectares dans une commune, sur 10 terrains différents... ils lui ont réattribué ces 10 hectares, mais sur une seule parcelle, tu vois. Mais en fait, ça, si tu veux, c'est pour favoriser l'agriculture mécanique. Parce que quand tu as 10 parcelles à droite et à gauche, tu traverses pas le village avec ton tracteur, c'est galère. Hein.
Attention.
Ouais, donc bah là, tu as la ferme, au pied de la ferme, tu as le champ avec les 10 hectares, et le mec, il envoie son maïs, son blé, ce qu'il veut, et il passe avec le tracteur, et au lieu de travailler à 25, 30, 50 personnes, il travaille à presque tout seul,
d'accord.
Deux fois à deux.
Ouais.
Et, mais du coup, il est tenu par les banques parce qu'il a le crédit pour le tracteur, pour les pesticides, pour les graines, pour tout un tas de choses. Et c'est un autre monde, quoi.
C'est ça, c'est que justement, j'allais parler de la PAC aussi qui est arrivée en 1962. Alors la PAC, c'est une politique hein, qui est mise en place à l'échelle de l'Union européenne. Et à l'origine, elle est fondée sur des mesures de contrôle des prix et de subventionnement visant à moderniser et développer l'agriculture. Et en vérité, ça a plus endetté les agriculteurs qu'autre chose.
Ouais.
Et ça a surtout subventionné les très grandes exploitations, donc on en parlait. Donc, est-ce que la PAC fut une bonne chose, Jonathan?
Non, bah non. Non, 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 bah elle a tué le métier, quoi. Ouais. Elle a tué le métier. Alors, c'était difficile, et les paysans, bah, ils voulaient autre chose pour leurs enfants, mais... voilà, après, non, la PAC, elle a tué la paysannerie de proximité, en fait, parce que du coup, elle favorise tout un système de fermes gigantesques qui peuvent pas se permettre d'embaucher du monde et de faire ça, enfin, d'avoir une agriculture respectueuse de l'environnement, quoi. Eux, ils sont là pour faire du chiffre, et uniquement du chiffre, c'est des opérations comptables. C'est plus c'est grand, plus ils touchent d'argent, et puis plus ils ont de crédit, de machines derrière, etc. Et c'est pas bon, quoi.
Et plus c'est possible d'exporter. Donc j'imagine... voilà, que penser du commerce mondial en agriculture? Faut-il dans notre monde aujourd'hui qu'il y ait encore des échanges?
Bah, c'est compliqué parce que... Ben moi, personnellement, j'aurais déjà du mal à faire une croix sur le chocolat. C'est pas facile. Après, évidemment que, oui, pour un monde plus durable, il faudrait énormément limiter les échanges. Et ça va de soi, parce que ça fait tourner l'industrie du pétrole. Et c'est vraiment pas bon. Après, l'être humain, il a toujours échangé, quoi. Le problème, c'est l'énergie. C'est encore un autre problème.
Ouais.
Parce que je pense qu'il peut y avoir des échanges, tu vois. Faut pas non plus être trop fermé. Mais tu vois, il y a 2000 ans, il y avait des échanges. Tout se faisait à cheval. Il y avait beaucoup moins de pollution. Mais par contre, on arrivait quand même à avoir des épices d'Inde.
Bien sûr.
Tu vois, la route
en
de
bateau.
La soie, elle existe depuis des millénaires. Donc, on va pas, du jour au lendemain... fermé, quoi, ce serait idiot. Le problème, c'est le fret, c'est le moyen de transport et l'énergie liée à ça, quoi. Et aussi la surconsommation qui fait que tout apprend des proportions immenses.
Et qu'il y a encore plus de transport et que...
Et ouais.
Alors justement, tu parlais de chocolat et il y a de plus en plus d'entreprises maintenant qui font des cargos en voilier. Enfin, c'est des cargos voiliers.
Ah ouais.
Et donc, voilà, ça pollue plus.
Ouais, c'est cool.
Ça peut être une solution. C'est plus long de faire.
Ouais, ouais, bah de toute façon, oui, je pense que là, on est en train de changer d'air dans le sens où l'hyper disponibilité de toute chose, de tout aliment et de tout ingrédient, c'est fini. On l'a bien vu avec les pénuries de moutarde ou même si c'est de la spéculation sur certains trucs, on ne sait pas tout. Mais par contre, ouais, je pense que ce système d'abondance permanente est terminé, quoi.
Eh ben oui.
Là, maintenant, si on veut quelque chose de bien précis et qu'il y a un délai de 3-4 mois, c'est pas surprenant, quoi.
Et alors, les pesticides en France ou en Europe, hein, si tu y connais un petit peu, est-ce qu'il y a une diminution des pesticides avec le temps ?
Au fur et à mesure, sur les étalages en jardinerie, oui, parce que ces dernières années, il y en a de moins en moins, et cette année, il faut dire qu'il y a, vraiment beaucoup moins. Et il y a tout un rayon bio qui est venu accompagner le reste, en fait, dans les jardineries, et c'est plutôt pas mal. Du coup, ça sensibilise les gens, notamment aussi sur le rapport au vivant, parce que les plantes, elles sont pas éternelles non plus, quoi. On peut pas faire du maintien en vie en permanence si elle est pas adaptée au terrain ou au climat ou tout simplement c'est la vie, quoi. Elles peuvent mourir, hein.
Ouais.
Donc c'est vrai que les gens s'ouvrent aussi pas mal là-dessus et c'est plutôt pas mal. Après, pour ce qui est des pesticides, il en reste quelques-uns de chimiques pour tout ce qui est insectes ou animaux un peu coriaces comme les rats, les souris, les frelons, etc. Donc là, oui, là, il y a des produits forts,
chimiques
chimique.
Et toxiques pour
toxiques,
l'humain.
Ouais, pour l'humain, l'environnement. Mmh. Enfin, ça tue des frelons. Un frelon, c'est coriace, quoi. Tu pars comme ça, hein. Voilà. Et il reste ça, et il reste aussi pour tous les jardiniers qui ont l'agrément, le certificat phytosanitaire, et qui eux ont accès à la pharmacie chimique dans des quantités et des proportions, ils ont ce qu'ils veulent, quoi, à volonté.
Qui ça ?
Alors, c'est nous, hein, les jardiniers. Alors, moi, j'ai pas le certificat parce que je veux pas traiter, donc ça me sert à rien, je veux pas mettre de produits. Mais en fait, c'est une sorte de certificat. Ouais, c'est un diplôme, un certificat. Hein. Tu passes une journée en fait où on te sensibilise sur les produits phytosanitaires, et à l'issue de cette journée, c'est comme la journée d'appel des militaires.
Défense.
Voilà. Donc là, tu as la journée d'appel aux phytosanitaires, et en fait, tu as accès à la pharmacie aux produits durs, on va dire.
D'accord.
Voilà, tes traitements, etc. Et là, tu as des trucs. T'as tout. T'as tout ce qui est interdit, en fait, au final, maintenant, dans un rayon en jardinerie, quoi.
Et oui, alors, justement, tout à l'heure, tu me disais qu'ils changeaient les noms pour noyer le consommateur.
Oui. Sur l'étiquetage, c'est la jungle, hein, parce que t'as un seul produit pour différents usages, avec différents noms. Mais au final, c'est toujours la même molécule qui est dedans, comme le basil de turage contre les chenilles, qui peut être vendu sous différents aspects, à différents prix. Mais au final, c'est le même produit. Et ça marche aussi avec les engrais. Hein. T'as un engrais tomate, un engrais patate, un engrais fleur, hortensia. Et puis au final, on regarde la formulation et c'est exactement les mêmes pourcentages. C'est la même chose, quoi. Et à trois prix différents, c'est pour noyer le consommateur, quoi. Tout le monde s'y perd. Si on fait pas gaffe, on se fait avoir, quoi.
Ouais. Ouais, non, c'est sûr que les pesticides, c'est compliqué, même dans le choix de consommation, parce que le bio aussi a quand même des pesticides, il me semble. Alors moins.
Alors moins, ouais.
Mais quand même.
Mais quand même, après, ça reste des produits plus soft, on va dire. Avec un degré d'évaporation qui est quand même beaucoup plus élevé que le reste. Il n'y a pas de produits systémiques qui pénètrent le système de la plante. Voilà, ça c'est chose qui... Il faut avoir un certificat phytosanitaire pour ça. Mais du coup, il y en a qui l'ont et ils y vont. Mais enfin bref, même en bio aujourd'hui, de toute façon, ce sera toujours mieux que du conventionnel. Après, il y a tout ce qui est biodynamie, où là, c'est carrément c'est du marabout, quoi. Du coup, là-dedans, il n'y a pas de produit.
Et oui, moi, j'ai fait une formation au Brésil d'agriculture biodynamique, justement.
Ouais, c'est balèze, hein.
Ouais, c'est très précis et sensible.
Ouais.
Mais ils ont des résultats assez incroyables.
Hein. Ah ouais, y a des résultats. Hein.
Y a même
tout ça marche, quoi.
Il y a même du rendement.
Ah, il y a du rendement, hein. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est...
Alors, en industriel, peut-être pas, mais il y a du rendement, quoi.
Ah ouais, non, mais c'est assez tiré par les cheveux quand tu regardes le théorique, comment tu fais le compost de bouse dans une fenêtre à l'est, dans la corne, voilà, donc c'est vraiment...
Ou le crâne.
Ouais, c'est assez spécial, mais tu vois les jardins et les résultats qu'ils ont, c'est splendide, quoi. Mm. Ça marche, y a rien à dire, ça marche, quoi.
Il n'y en a pas beaucoup encore en France.
Alors, il y en a eu beaucoup sur les pommiers. Alors je sais pas pourquoi, si parce que sur les pommiers il y a eu beaucoup beaucoup d'abus aussi, un peu comme sur la vigne et le raisin, et que du coup le virage en bio a été compliqué à prendre, et que du coup peut-être la biodynamie, justement ce côté marabout, a aidé les plantes à se détoxifier de tous ces pesticides, quoi.
Ah oui, peut-être on peut voir ça comme ça, ouais. D'accord.
Eh bien, la pomme, il y a 32 traitements par an sur 50, 51, 52 semaines. Donc, je te laisse imaginer le truc, hein, sachant que l'arbre est caduque, du coup il perd ses feuilles en automne, donc il est à poil tout l'hiver et il se passe pas grand-chose. Donc voilà, il est quand même traité 30 fois par an. Et là, les malheureux pommiers se sont retrouvés tronçonnés justement là il y a quoi, une dizaine d'années, quand la Pink Lady a commencé à faire fureur dans les supermarchés. Les golden se vendaient plus, donc les cultivateurs avaient mis des golden dans les années 90, etc. Et il y avait un super rendement, ça marchait bien, les gens les mangeaient, ça se vendait, donc il n'y avait pas de souci. Et du jour au lendemain, le consommateur, lui, il avait envie d'autre chose et ces pommes-là se vendaient plus. Du coup, ils ont tronçonné les houppiers des arbres, donc toutes les branches, tous les rameaux. Ils ont gardé les troncs, les tiges quand même, et puis dessus, ils ont greffé la Pink Lady. Parce que c'est comme ça souvent
Comment on
qu'on
fait ça
cultive un
avec
arbre.
des produits chimiques alors?
Ah non,
Non?
la greffe, c'est ancestral, hein. Néandertal le faisait déjà.
Ok.
Et en fait, tu as un tronc avec des racines qui sont suffisamment puissants et adaptés au terrain que tu peux avoir, si c'est un terrain sec ou un terrain humide, acide ou calcaire. Donc tu choisis tes racines en fait, et après tu coupes l'arbre et tu viens greffer dessus le fruit que tu veux manger. C'est ce qu'on fait souvent sur les citronniers, les orangers. Il n'y a plus aucun citronnier ou oranger qui pousse en port libre de la tête aux pieds, quoi, hein. Il y a les
D'accord.
racines d'un autre, et puis les branches, c'est une autre variété, et c'est comme ça que ça marche.
Ouais.
Et pour tout un tas de fruits. Enfin, les pommes, les poires, tous les agrumes, enfin, des greffes, même les pistaches.
Et ça, nutritivement, ça pose pas de problème?
Je sais pas nutritivement. Je sais que les pommes d'aujourd'hui sont beaucoup moins riches en nutriments qu'autrefois, hein. C'est 5 ou 10 fois moins de nutriments, je crois, qu'une pomme d'avant-guerre, guerre de 40. Après ça, vraiment, il faudrait vérifier scientifiquement. Après, là où ça pose un problème, c'est que quand tu récupères la graine de ce fruit-là, il va faire un plan qui ne sera pas le fruit que tu auras mangé. C'est-à-dire
D'accord.
que quand tu prends un citron, tu manges ton citron, tu enlèves les grains qui sont à l'intérieur, tu le récupères et tu le sèmes, il peut pousser n'importe quoi. Il poussera pas un citron comme tu as mangé. Il peut pousser toutes les variétés avec lesquelles il a été croisé pour obtenir ce fruit.
D'accord.
Ou même carrément directement du porte-greffe, ce qui est un orangé du Mexique ou un Poncyrus, fréquemment, c'est ce qui pousse. Mais il ne poussera jamais un vrai citron, tout comme une pomme, ou quand tu manges une pomme et que tu sèmes le grain de la pomme, il te donnera pas la même pomme que tu as mangée. Voilà. Alors si ça arrive, par contre, c'est que c'est bien. Et là, il faut vraiment préserver la variété, parce que c'est que ça a marché, et c'est que c'était un arbre libre, justement, qui avait ses
D'accord.
racines et ses branches pour lui tout seul, et c'est une variété franche.
Ok. Mais comment, enfin, je reviens à la greffe. Comment tu peux greffer sur un tronc qui est coupé?
Et ben parce que le bois, un arbre, il vit sous l'écorce. Contrairement, alors je sais pas ce que pensent les autres, mais beaucoup de gens pensent que le tronc de l'arbre, c'est la vie, et que la sève, il circule à l'intérieur, mais en fait, non, la sève, elle circule sous l'écorce et tout autour de l'arbre, sur le pourtour de l'arbre. L'intérieur de l'arbre, ça sert juste à le structurer, le rigidifier et à le tenir droit. Mais c'est pas vivant. On pourrait tuer un arbre en le découpant au cutter, en séparant le haut du bas, tout bêtement. Juste le contour. Et le bois qui est à l'intérieur ne lui sert absolument pas, ça n'est pas vital, quoi. C'est pour ça qu'on voit des platanes qui sont complètement creusés, ou des oliviers très vieux qui sont complètement creusés et bouffés par les fourmis, nettoyés, etc. En fait, parce que l'arbre, il vit juste sous l'écorce, il vit juste sous la peau. Et du coup, quand tu greffes, c'est ça, tu viens couper l'écorce, retirer légèrement cette peau-là pour trouver le cambium. Donc c'est cet espace où il y a le plus de vie dans le bois, et tu viens greffer une branche sur laquelle tu as fait la même manipulation, en fait, et c'est cambium contre cambium. Et là, ça se soude comme une cicatrice qui se referme.
Mais, enfin, quand même, l'intérieur de l'arbre, comment on peut dire que c'est pas vivant alors que c'est produit de la terre? J'ai du mal à comprendre quand même.
Alors, ces produits de la terre, ben, ça lui fait son squelette, en fait. Il y a certains arbres qui peuvent l'utiliser pour acheminer une grosse montée de sève, par exemple, où il a plu énormément, et puis il y a un gros coup de chaud, c'est le printemps, et là, il a une montée, du coup, il peut utiliser certains canaux pour acheminer la sève en haut de l'arbre, pour qu'il pousse. Mais autrement, ça ne sert qu'à le structurer et à le tenir droit.
C'est comme nos os, en fait.
C'est ça, exactement.
Et alors, moi, j'avais fait un stage en agriculture il y a 2 ou 3 ans. Et c'était en agriculture conventionnelle. Et mon patron me vendait un peu l'idée qu'aujourd'hui, on emploie très peu de pesticides et que les quantités qui sont versées en polyculture, après, je sais pas pour le reste, et que les quantités qui sont versées ne sont pas toxiques pour l'humain, en France, du moins.
Bah qu'ils les mangent, hein. Voilà. Moi, je les mangerai pas. Bah, c'est que j'ai pas confiance, en fait. Mm. On se fait tellement promener à droite et à gauche que ces gens-là qui fabriquent les pesticides sont ces gens qui sont ces pharmaceutiques, c'est les mêmes groupes, quoi. Hein. Bayer, ils font de la biceptine pour réparer les bobos, et ensuite de ça, ils font des pesticides aussi. Enfin, ce sont les spécialistes de la gestion de la chaîne du début à la fin, quoi.
D'accord. Et alors, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet des croyances autour de la permaculture et des champs de permaculture. Et moi, j'ai pas mal entendu le fait que c'est pas viable pour l'humanité ou que c'est pas rentable. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça pour l'avenir, en fait ? Est-ce qu'on pourrait imaginer un monde où peut-être pas tout le monde aurait un jardin de permaculture, mais en tout cas plusieurs communautés et qu'on puisse échanger les produits entre nous.
Ouais, bah ouais, ce serait le rêve, ouais.
Ouais.
Bah après, si c'est économiquement viable, ça, je sais pas. Après, c'est un autre problème avec l'argent. Mais je pense que c'est viable, oui, pour tout le monde, en fait, parce que tout le monde pourrait bouffer, quoi. Parce que là, si on multiplie les micro-fermes, alors déjà, si chaque personne qui possède un jardin avait un potager, mais ne serait-ce que 20 mètres carrés, c'est pas énorme, 20 mètres carrés qui produisent à fond, ça produit vraiment beaucoup de légumes, hein, et quelqu'un qui a 100 mètres carrés de production en maraîchage, il peut très bien vivre en autonomie, quoi. Presque, surtout presque en autonomie, quoi. Mais par contre, ouais, je pense que s'il y avait des micro-fermes partout, le monde s'en porterait mieux. Déjà, il y aurait un commerce de proximité. Ça favoriserait les échanges entre humains. Déjà, et ben, on serait au courant de qui est l'agriculteur qui fait pousser notre nourriture. Et on saurait même où la trouver pendant qu'elle pousse. Enfin voilà, on pourrait voir notre nourriture, elle pousserait pas loin de chez nous. Et je pense que ça fonctionnerait super bien. Le problème, après, ça va être avec les grosses villes. Mais en tout cas, pour des petits villages à notre échelle ici, s'il y avait 4 ou 5 micro-fermes au village, on n'aurait même pas besoin de faire d'importer quoi que ce soit.
Ah oui.
On produirait tout sur place,
c'est
pour
super.
Tout le monde.
Ouais, c'est juste que ça ne ferait pas croître le PIB, quoi.
Ben ouais,
économiquement,
ouais, économiquement, ouais. C'est pour ça qu'économiquement, je sais pas si ce serait viable, parce que du coup, ça fonctionnerait dans un système qui serait complètement un système économique qui serait complètement différent.
Qui serait local et pas.
Voilà, qui serait local, c'est ça, ouais. En fait, il faudrait une monnaie locale, même si on garde les euros, je sais pas pourquoi faire, mais voilà, mais au moins une monnaie locale pour pouvoir échanger avec tous les artisans locaux, et en fait, ça va refavoriser aussi une industrie locale comme des forgerons ou des mecs qui réparent les outils, des soudeurs, des trucs comme ça qu'il y avait il y a à peu près 100 ans au village. Il y avait tout un tas de trucs qu'aujourd'hui t'as plus, quoi. Là, aujourd'hui t'as un outil qui est cassé, tu faut avoir un pote pour qu'il te le répare, parce que t'as rien, t'as pas un mec qui est forgeron ou un spécialiste qui répare les outils et qui font que t'as pas besoin de consommer à nouveau, quoi.
Oui, il faut que t'ailles dans un groupe pour le faire réparer, mais au final, ils vont te pousser à...
Bah, il faut aller, ou une sorte de café repair, un machin comme ça, mais après... moi, je pense que s'il y avait beaucoup plus de micro-fermes et d'artisans, enfin d'artisanat local, le monde s'en porterait mieux, quoi.
Alors, justement, Peut-on intégrer la permaculture dans nos vies quotidiennes très actives? Et est-ce que les restaurateurs même pourraient s'approvisionner? Comment est-ce que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de temps, ou ça dépend de la taille du jardin aussi, j'imagine?
Ça dépend de la taille du jardin et des quantités qu'il faut fournir. Après, chacun peut faire des gestes dans son quotidien, hein. Un restaurateur, ce qu'il peut faire, c'est déjà utiliser des produits non chimiques pour faire la vaisselle, tout ce qui est produits écologiques justement pour les machines, avoir des récupérateurs d'eau. Sur les toitures, faire du compost, voilà, favoriser tout ce qui est compost. En plus, un resto, ça brasse énormément de restes,
Eh
donc
oui.
pour eux, ça c'est une mine d'or. Le marc de café aussi, enfin bref, ils ont plein plein d'ingrédients à réutiliser pour avoir ces petits gestes permacoles du quotidien, quoi. Mais après, c'est pas évident pour tout le monde, en fait, c'est comme arrêter de fumer, il faut changer les habitudes, quoi. C'est ça. Et c'est pas facile.
Mais est-ce que, tu vois, dans chaque... Enfin, si... Si chacun pouvait avoir un jardin de permaculture, pour ceux qui ont un jardin, est-ce que ce serait possible de l'intégrer dans une vie quotidienne active où on n'a pas trop le temps, tu vois, on travaille, je sais pas, de 8h à 19h, ou est-ce que c'est compliqué, il faut vraiment y consacrer beaucoup de temps?
Ça dépend de la surface du jardin, et en fait, grosso modo, pour un jardin qui fait dans les 50 mètres carrés, avec un système d'irrigation automatisé, un arrosage automatique, tu bosses allez, 2 heures par semaine en moyenne. Déjà, tu bosses 2 heures par semaine dedans, alors il faut vraiment faire les bons gestes. Mais t'arrives à t'en sortir, quoi. Ouais, 2-3 heures par semaine sur 50 mètres carrés, ça peut produire beaucoup.
Et quels sont les bons gestes alors?
Bien pailler, bien mulcher, éviter de se donner du travail supplémentaire, parce que généralement c'est souvent le jardinier qui crée sa propre peine, quoi. Quand on met de la paille ou du foin ou des trucs qui sont montés en graines par exemple, et qu'après ces graines-là germent et envahissent le jardin, donc c'est nous qui l'avons semé quelque part, donc c'est notre châtiment, quoi.
D'accord.
Mais ouais, c'est faire gaffe au paillage, et puis avoir les bons gestes au bon moment, quoi. Savoir quand bêcher, et puis quand planter, quand tailler. Et c'est vraiment, voilà, des gestes à faire au bon moment, et après on n'a pas à y revenir. Du coup,
Ok.
ça, oui, c'est important, quoi.
Il faut peut-être un planning.
Il faut un planning, oui, mais il faut surtout pratiquer. En fait, parce que c'est vraiment en jardinant qu'on apprend à devenir jardinier, parce que même en ayant un planning, c'est pas toujours facile. Enfin, on est dépendant de la météo, tu vois. Des fois,
Eh
il va
oui.
pleuvoir, ou il va y avoir beaucoup de vent, ou il va geler, ou il va faire très chaud, et on pourra pas jardiner dans ces heures-là. Le jardinage, ça reste un plaisir, c'est du fun. Du coup, il faut le faire comme du sport, quoi. C'est quand ça te prend et que tu as envie d'y aller, il faut y aller, quoi. Après, c'est sûr que si ça devient une obligation et qu'on le fait parce que c'est dans les cases du planning à ce moment-là, de toute façon, même les plantes, elles vont le savoir, elles vont finir par le sentir, hein, de toute façon. C'est vivant, hein, donc qui va dans différentes pépinières, tu as des gars qui sont... Qui peste, gna gna, le boulot, j'en ai marre, tu vois, toujours fatigué, à râler, à râler, à râler, mais t'as des plantes qui sont de moins bonne qualité que quelqu'un d'autre, qui d'autres pépiniéristes qui sont hyper contents d'être à leur place, quoi. Ils sont là à leur boulot, ils sont à fond, ils ont le sourire et tout, ils ont toujours le sécateur dans la poche, ils jardinent, et c'est cool, et ils ont et j'ai des résultats vraiment différents entre une pépinière et une autre, et suivant le profil du gars qui entretient ces plantes-là, quoi.
Ouais, c'est intéressant, l'énergie qui vibre, elle influence directement les plantes et les cultures.
Ah ouais, bah ouais.
Et comment, alors justement, est-ce que tu constates certaines croyances ou certaines attitudes parmi tes clients où tu dis, bon, bah, ce client, clairement, je vais pas pouvoir faire grand-chose, ou d'autres au contraire avec qui il y a une vraie vibration, comment... Et parmi ceux avec qui tu n'arrives pas à travailler, est-ce que tu arrives à voir quelles sont leurs croyances peut-être à propos du jardin de permaculture?
Ouais, il y a de tout hein, dans les clients. Donc il y en a qui sont très ouverts et même waouh et qui on peut faire de belles choses. Enfin, on peut faire de belles choses avec tout le monde, quoi. Hein. Mais le challenge, c'est pour moi, c'est surtout d'ouvrir l'esprit des gens qui justement sont pas encore dans le milieu. Qui ont ou alors de faibles notions de permaculture et qui s'y intéressent de loin et qui veulent justement creuser un peu plus en faisant ça chez eux. Parce que prêcher un converti, c'est pas. Enfin, j'en ai pas mal qui sont déjà à fond dans le bio depuis X années et c'est même eux qui sont là derrière moi à vérifier tu vois, que je fais bien tout dans les règles de l'art. Évidemment, oui, mais. Mais pour moi, le but du jeu, c'est surtout d'éveiller les consciences, d'avoir des clients qui peut-être même n'en avaient jamais entendu parler. Et là, c'est de leur vendre le truc, quoi. Hein, même au niveau du rythme, des tailles, qu'on fait pas ce qu'on veut quand on veut. Que c'est voilà. L'idée, c'est surtout voilà d'ouvrir l'esprit. Si je peux ouvrir l'esprit de certaines personnes, c'est bien.
Et donc, quelle est ta vision alors du futur de la permaculture?
Ah ben pour moi, le top du top, ce serait une explosion de micro-fermes de partout, partout, de partout, partout, partout. Oublier les jachères, les terres abandonnées, tous ces trucs-là, et puis que tout le monde se soit son propre patron et cultiver ses légumes et les échanger avec le voisin, et là on sera bien.
Et quel est toi ton rapport à la terre et qu'est-ce que tu ressens alors quand tu travailles avec la terre?
Je ressens du plaisir, moi j'aime mon métier. Je me lève pas le matin en me disant oh, tiens, il faut aller au boulot, ça fait chier ou quoi, je réfléchis même pas, je me lève et je vais au travail et c'est cool. Mais du coup, ça dépend des endroits. Après aussi, il y a des jardins avec lesquels j'ai plus d'affinité. C'est comme les humains, hein, tu as plus d'affinité avec l'un plutôt que l'autre. Après, globalement, ça marche pas trop mal. Mais chaque jardin a ses petits caprices, tu vois. T'en as où t'arrives pas à faire pousser certaines choses. C'est normal, après t'as pas tout ça peut pas pousser de partout.
Et t'arrives à savoir pourquoi ou non, pas toujours?
Non, pas toujours. Non, 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 il y a des trucs. Des fois, il y a des trucs qui se passent. C'est pas simple. Une fois, j'ai travaillé pour un chaman. Et du coup, je faisais pousser des choux. Sont plantés à peu près à 50-60 cm d'intervalle et les choux ils sont montés sur 10 cm, puis ils se sont coudés à 90 degrés et ils sont partis tous les deux dans des directions opposées, tu vois, sur à peu près 10-15 cm, donc c'est pas tout à fait normal pour un chou. Et après, ils sont revenus droit et c'est assez barjot. Et le client te demande de lui expliquer ça, tu vois. Et alors, il est chaman, donc j'ai de la chance, je lui dis que je ne sais pas. Enfin, de toute façon, je ne vais pas lui mentir, même à ce client ou à un autre. Mais ouais, mais visiblement, lui avait la réponse avec des forces théoriques. Alors, il a mis des pierres, des orgones, des trucs, et on a remis d'autres plantes après, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, ça a fonctionné. Mais là, pour le coup, les choux, ouais, c'était vraiment bizarre, quoi. Les trucs, ils sont montés, ils sont partis tous les deux dans des directions opposées, ils se fuyaient, c'était.
Et ça fait jamais ça normalement.
Non. Non, non, il peut ramper par terre ou alors avoir une forme un peu atypique, mais là, pour le coup, ils étaient droits comme des piquets, ils ont coudé à 90 degrés pile poil. C'était vraiment bizarre, quoi.
C'est une question de vibration, ça. Vibratoirement, il devait se passer quelque chose sur cette terre. Je sais pas si peut-être qu'il a eu l'occasion de faire des rituels ou c'est possible, hein.
D'après lui, c'est le transformateur électrique qui en était la cause et qui était de l'autre côté de la rue. Pile poil en face. Pile poil en face, à peu près à 50 mètres. Mais pile poil dans l'axe, il y avait un transformateur électrique. Et pour lui, c'est
Oui,
ça.
d'accord. Et est-ce que tu sens parfois sur des jardins que la vibration elle est mauvaise et comment tu aides le client à ce moment-là?
Alors non, dans les jardins, non, j'arrive pas à sentir ça. Généralement, j'essaye toujours de faire de mon mieux pour aider les plantes et les gens qui me demandent. Mais après, pour l'instant, j'ai pas eu de mauvaises vibrations, de mauvais feeling avec un jardin, du moins. Il y a des maisons où je reste pas dedans, hein, tu
Ok.
vois. Genre, je rentre, merci, au revoir, et je m'en vais.
Chez le
Je
client.
traîne pas. Mais après, dans les jardins, non, ça m'est pas encore arrivé.
Et on arrive à la fin de ce podcast et je pose toujours une dernière question en fin d'épisode. Et alors, je peux pas te poser la question, penses-tu que nous sommes limités parce que ça va pas trop avec le thème, mais penses-tu que la permaculture est illimitée?
Ben ouais. Pourquoi il y aurait une limite? Je sais
Ben,
pas.
une limite de rendement ou
Non,
de,
mais
tu vois,
bah, de
de...
rendement, non. Alors, on est limité à la surface de la planète. Après, on peut éventuellement essayer d'aller cultiver sur la Lune, mais c'est pas très permacole comme attitude. Mais ouais, la seule limite, évidemment, ça serait la surface terrestre. Après, y a autant de possibilités que d'êtres humains et autant de visions de la permaculture que d'êtres humains également. Et si chacun le fait dans les règles de l'art et en respectant le vivant, je pense pas qu'il y ait de limite, quoi. Chacun peut apporter quelque chose à l'autre. Et là, on s'arrête jamais d'apprendre. Du coup, je pense pas qu'il y ait de limite.
Génial pour le mot de la fin. Prenons-en de la graine. Merci beaucoup, Jonathan.
Merci à toi.
Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Les destins flottants pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous afin de retrouver le prochain épisode. À bientôt!